Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e numéro de On va se faire foutre, un numéro spécial puisque ce soir cette émission se mettra sur 131 pour parler Coupe de France et Toulouse Football Club, pour parler de Manchester City et du Bayern de Munich. Alors avec moi ce soir pour m'accompagner, il y a Daniel Montero à Londres, je crois, cette semaine.
Non, non, à Lisbonne.
Ah, à Lisbonne, ok. Marc Cabaye au Stade de France.
Salut.
Et moi-même au stadium municipal. Et donc, sans transition, puisque vous voyez le stadium derrière moi, je vous propose de démarrer notre premier thème sur la finale de la Coupe de France, qui sera l'affiche, on va dire, de la semaine prochaine, en tout cas en ce qui concerne l'actualité footballistique française, puisque donc la finale aura lieu le samedi 29 avril au Stade de France, juste derrière Marc, et opposera le FC Nantes déjà quatre fois vainqueur de l'épreuve, ou je dirais presque seulement quatre fois vainqueur de l'épreuve, parce que je pensais qu'ils avaient gagné la Coupe de France plus souvent. Et le Toulouse Football Club, donc vainqueur une seule fois de l'épreuve en 1957, ou zéro fois selon les historiens. Donc,
Ça date, hein.
les avis divergent. Et donc, ma question est simple. Est-ce que c'est une finale qui redonne de l'intérêt à la compétition, puisque c'était une compétition qui était devenu un peu monotone, puisqu'on avait l'habitude, comme en championnat de France, de voir gagner tous les ans le Paris Saint-Germain. Cette année, on a une finale où on va voir s'affronter deux clubs plus ou moins historiques du championnat de France. Le FC Nantes, c'est sûr, c'est un club historique du championnat de France. Le Toulouse Football Club aussi, même s'il a moins de palmarès. En tout cas, deux autres métropoles françaises importantes. Donc voilà, ma première question, c'est FC Nantes, une finale qui redonne de l'intérêt à la Coupe de France? Oui ou non? Marc, je te laisse démarrer.
Ok, je dirais que il faut tenir compte d'une chose, c'est que la date, la Coupe de France. Moi, à l'époque, quand je regardais les finales de Coupe de France, c'était souvent à la fin du championnat. C'était fini de toute façon. C'était le dernier match du championnat. C'était le dernier match, pardon, après la fin du championnat. Donc tout était joué. Là, il faut tenir compte que l'un des intérêts majeurs, c'est de savoir dans quelle disposition psychologique vont arriver les deux équipes. Il y en a une qui a tout à gagner, qui n'a plus rien à jouer en championnat, c'est Toulouse, et qui n'a jamais rien gagné ou qui a gagné une Coupe de France il y a fort longtemps pour certains historiens, et puis finalement pour d'autres, ben, ils ont rien gagné à date. Donc Toulouse, et puis Nantes qui arrive et qui a annoncé d'ailleurs d'ores et déjà que même s'il gagnait, il n'allait pas fêter. Parce qu'évidemment, dès le mercredi, ils rejouent en championnat et qu'ils ne sont pas du tout sauvés. Ils ne sont pas encore sauvés. Donc, ils ont encore l'épée de Damoclès de descendre en Ligue 2. Donc, finalement, un des intérêts, ça va être ça. Comment jouer un match, une finale, en étant et essayer de la gagner, alors que, donc, jouer à 100% tout en se préservant pour le match de mercredi. L'équation me paraît très compliquée pour Nantes. Quant à Toulouse, enfin un vent de fraîcheur. Moi, je dirais que c'est un club. On le sait, la ville de Toulouse, c'est finalement une ville de rugby, hein. On le sait, le nombre de trophées de cette ville dans le rugby, c'est énorme. Mais au niveau du foot, c'est vrai qu'il y a le territoire est vierge. Donc, en fait, Toulouse, il n'y avait pas grand intérêt jusqu'à maintenant. Là, je trouve que l'intérêt, c'est que depuis 2 ans, le travail qui est fait est remarquable. Et d'ailleurs, comment dirais-je, le nombre de spectateurs qui vient à chaque match le prouve. Le jeu est agréable. Je pense qu'il y a 13 000 abonnés. Je crois que c'est du jamais vu. Je crois que cette année, ils ont battu le record d'affluence avec 33 000 spectateurs. Je crois que c'était contre le PSG. Bref, c'est un club. J'ai envie qu'il gagne, en fait. Parce que ça amènerait quelque chose de nouveau et surtout ça donnerait un élan à un projet qui démarre, hein, qui est neuf, qui a 2 ans, pas tout à fait 2 ans. Et je trouve que ça serait en tout cas l'intérêt pour moi, ça serait que Toulouse l'emporte parce que ça mènerait un vent de fraîcheur. Mais la vraie question pour moi, c'est dans quel état va arriver Nantes. Voilà pour moi l'intérêt de cette finale.
C'est qu'ils n'arrivent pas très très bien a priori. Dany?
Ouais, ils arrivent pas très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, pour répondre à ta question initiale, est-ce que cette finale relance l'intérêt de la Coupe de France? Clairement, la réponse pour moi c'est oui. Oui, parce que Même si je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, vous l'aurez remarqué, bah c'est un peu lassant, c'est vrai, de voir qu'au final, cette compétition, elle a été un peu monopolisée par le PSG ces 10 dernières années. Il faut remonter à 2014 pour ne pas voir le PSG en finale. C'était contre Guingamp. Il y avait Rennes contre Guingamp, c'était en 2014. Sinon, depuis, bah, PSG est toujours en finale. Alors, ils n'ont pas gagné toutes les finales, malheureusement. Mais ils sont présents, en fait. Puis ils ont eu vraiment des finales faciles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre les Herbiers. Vraiment, c'était vraiment sans intérêt, ce type de match. Où, effectivement, là, on retrouve, je trouve, un intérêt à cette compétition. D'ailleurs, non pas que sur la finale. Je trouve que dans l'ensemble, les demi-finales et même les quarts de finale qu'il y a eu avant ont été quand même d'un assez très bon niveau, avec de belles surprises, avec des éliminations, l'élimination de Marseille, du PSG. Et les équipes qui se retrouvent en finale ont quand même fait un très beau parcours. On peut quand même se satisfaire de ça. Maintenant, moi, mon pronostic, il est différent de celui de Marc, même si je suis d'accord sur ce qu'il dit et sur la belle épopée de Toulouse cette année. Moi, je reste persuadé que Nantes va vraiment tout jouer sur ce match-là. Je l'avais déjà dit précédemment, j'ai une petite affection pour Toulouse parce que c'est vrai qu'il y a de beaux joueurs, ils ont un bon centre d'entraînement, il y a toujours des jeunes intéressants qui sortent de cette équipe, il y a une bonne dynamique. Par contre, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Alors, vous allez me dire, Nantes aussi prend des buts, c'est vrai, mais ils entraînent moins que Toulouse. Et même si au classement aujourd'hui Nantes lutte pour le maintien, moi je reste persuadé qu'ils vont sauver cette saison. Je pense que Camboiré va faire le boulot et il va réussir à mobiliser ses troupes. Mais pour cette finale, moi je vois plutôt Nantes l'emporter face à Toulouse.
J'avais dit Toulouse la dernière fois au tir au but.
Ouais, je reviens sur cette, je reviens là-dessus parce que le scénario justement de fin de championnat de Nantes fait que je pense que Nantes va, voilà, ils ont vraiment le couteau entre les dents, ils sont en mode survie là. Donc si effectivement ils étaient plus confortables au classement, je pense que ça aurait été un match beaucoup plus ouvert. Là, clairement, ils vont vouloir sauver leur saison. Et sauver leur saison, c'est gagner la Coupe de France et c'est se maintenir en Ligue 1. Donc ouais, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit et je pense que ça va être un match très disputé, mais je pense qu'au final, Nantes va l'emporter.
L'émission, ça va s'arrêter là pour toi. Donc...
Merci d'être
Je suis désolé, hein.
Non, non, mais... Sinon, au-delà de la blague, moi, je pense qu'effectivement, on voit ces derniers mois autour de la Coupe de France un engouement qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. Ça tient, selon moi, au fait qu'effectivement, le fait que le PSG ait été éliminé prématurément. Et le fait que Marseille ait été éliminé en quart de finale, ça a complètement ouvert la compétition. Et que des clubs qui, normalement, sont pas invités à la table se sont tous pris à rêver à une victoire de la Coupe de France. Moi, bon, je corrigerai juste un détail, hein. L'an dernier, la finale, c'était Nantes-Nice, hein, donc il n'y avait déjà pas Paris. Mais on avait vu cet
Ouais,
engouement.
exact, exact. Pardon.
On avait vu cet engouement déjà aussi l'an dernier au niveau des demi-finales et au niveau de la finale. On se souvient d'une atmosphère en finale, une ambiance extraordinaire, un stade en ébullition avec énormément de Nantais, un peu moins de Niçois parce que c'est beaucoup plus loin, mais une ambiance hyper colorée, ça ressemblait à des phases finales de rugby. Donc là, on retrouve cet engouement en foot finalement qu'on trouve, effectivement, je prends cet exemple, pratiquement que lors des phases finales de rugby avec des supporters maquillés, avec une envie de fête. Donc on retrouve ça. Il y a un engouement dans les deux villes incroyable, voilà, comme vous le savez, moi je suis supporter de Toulouse, hein. C'est ma ville, hein. C'est le sang, c'est le S, comme diraient nos jeunes ados. Et c'était quand même la guerre pour essayer de trouver des billets. Donc avec notre ami Giancarlo, on sera en place samedi pour supporter le TFC. Des deux côtés, dans les deux clubs, les billets sont partis vraiment très très vite. C'était la guerre pour en avoir, et je crois encore plus que l'an dernier. Le stade sera à guichet fermé samedi, ce qui est rare ces dernières années en finale de Coupe de France. Parce que comme tu l'as dit, même si on retrouvait souvent Paris, les affiches, elles n'étaient pas tout le temps à la hauteur. C'est sûr que PSG, les Herbiers, c'est moins vendeur que quelque part TFC Nantes. Ça reste deux grandes villes françaises, donc ça draine du monde derrière. Effectivement, Toulouse n'est pas allé en finale depuis 1957, donc il y a une grosse attente dans la ville et il y a une ambiance qui monte depuis la qualification en demi-finale. Même avant la demi-finale, c'était déjà très chaud et depuis, c'est encore plus chaud. Et à Nantes, finalement, ils ont l'occasion de faire quelque chose d'assez historique. Ils ont l'occasion de remporter deux fois la finale deux fois la Coupe de France d'affilée, ce qui est assez rare. Si on enlève le PSG de ces 10 dernières années, ben, la dernière équipe à avoir fait ça, ben, c'était Nantes déjà, en 99 et en 2000. Et avant, il faut remonter pour remonter au Girondins de Bordeaux en 86 et 87. Donc, ce n'est pas quelque chose de courant de faire le doublé en Coupe de France. Donc ça pose une performance, donc c'est loin d'être anodin. Et c'est un moyen aussi pour le FC Nantes, qui est un club historique, qui a quand même, je crois, 7 titres de champion de France, de continuer à marquer l'histoire, parce que 7 titres de champion de France et 5 Coupes de France, ça pose un palmarès. Après, là où je suis. Alors je partage à peu près l'avis de Marc, je suis pas d'accord avec Dany, c'est que le FC Nantes, ils sont quand même très très mal. Très très mal. Là, à date, ils sont à égalité avec Brest en nombre de points.
À 30... ouais, ils sont à 32 points.
Ouais, ils sont à 32 points tous les deux. La seule chose qui les départage, c'est la différence de but. De but. Et là, le match qu'ils jouent mercredi après la finale de la Coupe de France, c'est un déplacement à Brest. Donc le match le plus important pour eux, le match qui est interdit de perdre, c'est celui à Brest. S'ils perdent à Brest, c'est mort. L'affaire, elle sera entendue parce qu'après, il faut qu'ils se déplacent encore à Strasbourg. Et je ne sais plus chez quel autre, entre guillemets, candidat au maintien. Donc ça va être très 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 compliqué pour Nantes. C'est vrai qu'il
Mais tu, mais Mehdi,
ouais.
excuse-moi de te couper, mais tu, là où tu as raison sur l'état de forme de Nantes, je suis d'accord avec toi. Simplement, moi, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé le week-end dernier à Nantes qui est arrivé au bon moment, justement. Ils égalisent avec 3 à la maison, ce n'était pas prévu. Et il y a eu le gros coup de gueule de Comboiré, comme il sait le faire. Et je pense que, justement, ça arrive à point nommé. C'est vraiment le moment idéal pour, voilà, pour créer un électrochoc dans cette équipe en fin de saison. Et qui va justement remobiliser un peu les troupes. Et comme tu le disais, Nantes, c'est quand même un club historique. Nantes, c'est vraiment, voilà, il y a eu des grands joueurs qui sont passés par Nantes. Ils ont gagné la Coupe de France à plusieurs reprises. Et justement, ça parle, ça, en fin de saison. C'est des arguments assez forts que Comboiré peut utiliser justement pour mobiliser le
Mais
vestiaire.
moi, j'ai un gros doute. On verra samedi, on verra à la fin de saison s'ils se maintiennent ou pas. J'ai quand même un très, très gros doute sur est-ce que le message d'Antoine Comboiré passe toujours dans cette équipe. Parce qu'il n'y aurait pas la finale de la Coupe de France. Je pense que Comboiré, il aurait déjà pris la porte. Un entraîneur qui survit à 10 matchs d'affilée sans victoire, alors que tu luttes pour le maintien, ils ont tous pris la porte derrière. Ce qui a sauvé Comboiré, c'est le match contre Lyon et le fait qu'ils aient une finale à jouer et que du coup, le président. Il n'est pas voulu déstabiliser le club puisqu'il ne l'était.
Le vestiaire.
Prévision de la finale. Mais je ne suis pas sûr. Je me demande si vraiment le discours il passe toujours parce que le coup de gueule de Camboiré, il l'a poussé après le match à Auxerre où il a dit qu'ils étaient vraiment une équipe de merde. Ça a pas porté ses fruits parce que sans une intervention miraculeuse de l'arbitre, ils perdent contre Troyes. Parce qu'on pourra me raconter ce qu'on veut. Il y a main de l'attaquant nantais dans la surface. Donc ils doivent jamais égaliser, donc ils sont vraiment en grosse difficulté. Voilà, au-delà, c'est vrai que l'équipe qui a le plus de pression, c'est Nantes. Toulouse, ils ont déjà réussi leur saison, ils sont promus, ils ont 41 points, ils sont 11e ou 12e, ils sont maintenus à Ligue 1, en Ligue 1 déjà à 6 journées de la fin. Tout ce qui vient pour eux maintenant, c'est du bonus. Ils sont en finale de Coupe de France, ils l'ont pas été depuis 1957. Ils vont vraiment jouer sans pression. Et une équipe qui joue sans
Mais
pression, c'est hyper dangereux.
tu penses toi qu'ils vont, je me demandais justement s'ils allaient jouer justement avec la pression justement de devoir enfin pouvoir gagner, c'est l'année ou jamais.
Non, mais tu peux pas dire que tu n'as pas de pression quand tu joues une finale. Forcément, tu as une
Mais
pression.
oui, mais
Tu as un
voilà.
match du titre, tu as un match de l'Europe, mais ils sont pas. Ils ont déjà, entre guillemets, réussi leur saison. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'auront pas de pression. Tu as raison. Mais même s'ils perdent, ils auront réussi leur saison. Parce que qu'un promu soit 11e, et sans doute peut-être mieux, parce que à mon avis, ils vont passer à la fin devant Nice et devant Lorient, qui sont en chute libre ces dernières semaines. Donc, je pense qu'ils seront dans les 10 premiers. En fin de saison et en étant en finale de Coupe de France qui n'est pas arrivé pour le club depuis 1957, de toute façon, ils sont dans l'histoire du club, ils ont réussi leur saison. Donc pour eux, c'est du bonus. Soit ils sont encore plus dans l'histoire du club, Soit, de toute façon, s'ils perdent, personne ne leur en tiendra rigueur, même s'ils sont favoris du match, eu effet à leur saison et au classement. Parce que tu disais effectivement qu'ils ont une moins bonne défense que Nantes. C'est vrai, ils prennent quasiment un but par match, Toulouse. Par contre, ils ont une meilleure attaque.
Mais de toute façon, une finale, ça reste une finale, hein. Et ce genre de finale, justement, où tu as deux équipes, moi, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui soit supérieure à l'autre aujourd'hui, sincèrement. Quand tu regardes sur le papier, même si au niveau du classement, Nantes est moins bien positionnée que Toulouse, sur un match comme ça, sur une finale, voilà, on n'a pas un PSG, avec une force, de banc face à une équipe. Voilà, on a deux équipes qui sont assez équilibré en fait.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je rejoins Mehdi sur le fait que je pense que Comboiré, on arrive au bout. De toute façon, c'est le style de gestion d'effectifs qui, à un moment donné, a ses limites. C'est-à-dire, il pousse des coups de gueule à un moment donné quand ça ne va pas, donner tout sur le terrain, etc. etc. Au niveau tactique, ce n'est pas Guardiola non plus. Donc, je pense que c'est le type de gars que tu prends, justement, que tu embauches, si vraiment il reste 10 matchs et que tu dois te sauver, plutôt que sur une longue durée. Là, j'ai l'impression que l'équipe, elle arrive, les derniers résultats sont très compliqués, j'ai l'impression qu'elle arrive un peu à bout de souffle. Je suis très étonné que tu vois Nantes et je suis très inquiet d'ailleurs pour Toulouse, parce que du coup, je pense qu'en pronostic, tu nous bats tous ces derniers temps, en tout cas. Donc.
Non, mais moi, il y a un joueur, mais il y a un joueur à Nantes, que j'aime bien voir jouer, c'est Blas, Ludovic Blas, numéro 10. Et voilà, c'est vrai qu'il a il est très irrégulier comme joueur, mais c'est le genre de joueur, justement, qui a les qualités en tant que numéro 10 pour justement apporter du contenu et voilà, du muscle au niveau du milieu de terrain pour ce genre de match. Et je pense que Toulouse n'a pas un joueur comme Blas. Ils ont d'autres qualités. Mais en vrai numéro 10 à ce poste-là, ils en ont un, bien évidemment, mais je ne pense pas qu'il soit de la qualité de Ludovic Blas.
Ah, je pense honnêtement, hein, je pense que Branko van den Boomen, ça vaut Ludovic Blas. Hein. T'es à 6 buts en championnat, t'es à 8 passes décisives. Tu vois, alors c'est moins spectaculaire, sans doute. Il va pas te faire les mêmes gestes que t'as fait Ludovic Blas en demi-finale de Coupe de France. Le but contre Lyon, il est évidemment extraordinaire. Il est moins connu que Ludovic Blas parce qu'il n'est pas français. Hein. Blas, c'est la génération Mbappé. Ils ont été champions d'Europe. U17 ou U19, je sais plus, ensemble. Donc, c'est la même génération. Donc, il est médiatisé en France depuis longtemps. C'est moins le cas de Van den Boomen parce qu'en plus, il est chez un promu et les autres années, il était en D2. Mais une finale, je te rejoins, c'est particulier. Il y a plein de petites histoires dans cette finale et les finales, elles se construisent sur les petites histoires. Voilà, il y a plein de petites histoires qui vont animer cette finale. À Toulouse, pardon, à Nantes, vous avez trois joueurs qui sont passés par le TFC il y a plus ou moins longtemps. Vous avez Moussa Sissoko, vous avez Alban Lafont, vous avez Andy Delors, donc ils connaissent bien le club. À Nantes, vous avez cette pression de gagner deux finales d'affilée. C'est pas donné à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Même le grand Saint-Étienne des années 80, ils sont arrivés trois ou quatre fois en finale d'affilée. Et malgré Christian Lopez, Battenay, Jean Vion, ils sont pas arrivés à remporter deux fois d'affilée. Donc c'est compliqué. Et juste un dernier point, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et qui, en tant que Toulousain, me hérisse souvent le poil. Toulouse, c'est une ville de foot. Voilà. Mais alors, c'est une ville de foot qui n'a jamais eu de grande équipe de foot, qui n'en a eu qu'une seule dans les années 80, avec Marcico, Stopira, etc., etc. Et à cette époque-là, le stade, il était tout le temps plein.
Ouais, cette
Après,
année.
ça y est,
Mais c'est
l'entrée.
vrai que quand tu parles de Toulouse, souvent, c'est le rugby. Alors, peut-être que c'est aussi une ville de foot, mais c'est vrai qu'en rugby, ça, c'est exceptionnel ce qu'ils font tous les ans, encore cette année. D'ailleurs, l'ironie du sort, c'est que je pense que c'est le match en même temps, quasiment, hein. En tout cas, c'est la même journée.
Le même jour, ouais.
Voilà. Donc, c'est l'ironie du sort, mais généralement, on passe au rugby. OK, voulais pas
Non, mais
offenser les
t'as
Toulousains.
raison. En termes de trophée, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est encore une fois, c'est une ville de foot. Il n'y a pas eu d'équipe de foot à la hauteur de la ville. Parce que c'est, par contre, c'est un centre de formation hyper réputé. Dans toutes les équipes de France qui ont gagné des trophées, quasiment, il y a toujours eu des Toulousains. Il y a eu Doumer, il y avait Jean-François Doumer en 84, qui était capitaine du TFC à l'époque. À la Coupe du Monde 86, il y avait Stopira, même si on gagne pas, si on gagne que la médaille de bronze. En 98, tu avais Barthez et Candela qui ont été formés au TFC. C'est pas donné. Il n'y a pas beaucoup de clubs non plus qui forment des joueurs qui performent avec l'équipe de France, tu vois.
Si tu cites les 3-4 meilleures villes de foot en France, tu cites pas forcément Toulouse. Tu vois, c'est pas dans le top, top, top des.
Non, non, mais
Après, je suis d'accord avec toi.
je
Il y a eu
rejoins.
des bons joueurs. Il y a eu des très bons joueurs. Il y a eu de très bons souvenirs. Il y a eu l'élimination de Naples. Il y a eu des. Mais si tu veux, c'est très clairsemé quand même dans sur
Je
une
suis
génération.
d'accord, mais c'est là où c'est là où je te rejoins où c'est important. La finale peut être un virage positif, c'est que s'ils gagnent, ils vont jouer l'Europe l'an prochain, ils vont jouer l'Europa League. On est quand même dans la quatrième ville de France qui est appelée à devenir la troisième, puisqu'il y a, je crois, aujourd'hui 10 000 habitants d'écart avec Lyon. Donc ça va devenir à horizon plus ou moins lointain la troisième ville de France, avec des moyens économiques importants. Donc si on a fait d'autres débats sur les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Si on veut avoir des clubs français en Coupe d'Europe qui performent, ça passera par les grandes métropoles françaises. Ça passera pas par la Nanvin-Guingamp, tout le respect que j'ai pour Lens, parce qu'à un moment donné, le bassin économique, il se rétrécit et t'as plus ou moins de moyens, quoi. Et donc, pour terminer, je suis le seul à pas avoir donné mon pronostic. Donc, bon, évidemment, moi, je vais pas faire très original, hein. Je note Toulouse vainqueur, sur le score de 3-1.
Moi, j'ai noté 2-1 pour Nantes.
Moi, c'est un partout et puis c'est Toulouse au pénalty.
Deuxième thème, alors sans aucune transition, on va parler de Premier League et de Manchester City. Donc, comme vous avez vu cette semaine, Arsenal a été tenu en échec par Southampton sur sa pelouse. Hein, et Manchester City, dans le même temps, a gagné, a remporté 3-0 avec un triplé de Riyad Mahrez sur Sheffield et s'est qualifié pour la finale de la Cup. Donc, finalement, Manchester City, c'est le seul club aujourd'hui en Europe à pouvoir prétendre faire un triplé. À savoir championnat, cup et Ligue des champions. Donc finalement, est-ce que c'est l'année ou jamais pour City? Est-ce que vous croyez à cette possibilité de tripler qu'a déjà réalisé Guardiola avec le Barça? Ou est-ce que vous pensez que dans l'une ou l'autre des compétitions, City va chuter? Dani, je te laisse la parole.
Écoute, c'est quand même assez fou hein, le parcours de City cette année. Tu l'as bien résumé, c'est vraiment incroyable. Et je crois que le scénario là d'Arsenal contre Southampton, personne l'attendait. Donc du coup, ça laisse un boulevard à City. Parce qu'en fait, ils sont à 70 points au classement, sauf qu'ils ont 2 matchs de retard par rapport à Arsenal. Donc du coup, s'ils gagnent leurs 2 matchs, là, clairement, ils passent devant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le 26 avril,
Mercredi.
donc il y a le fameux mercredi, il y a le fameux City Arsenal. Donc, indépendamment de ces 2 matchs en retard, City à domicile, enfin, je ne vois pas comment Arsenal va battre City à domicile, sincèrement, même sans prendre la data et sans regarder l'historique. En ce moment, la dynamique de City, elle est juste incroyable. Avec un Haaland qui est en grande forme, toute l'équipe autour de lui est vraiment. Assez incroyable. Donc, et d'un point de vue tactique, justement, Guardiola, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Il s'adapte davantage à l'adversaire. Il a un peu, pas abandonné, mais il module un petit peu son jeu de possession historique. Et du coup, c'est une équipe quand même qui est redoutable. Donc, moi, en championnat, prenons parcours au niveau du championnat. City, je pense qu'ils vont gagner mercredi. Derrière, à mon avis, ça va dérouler. Je les vois vraiment clairement gagner le championnat d'Angleterre. La Cup contre Brighton, à mon avis, ça va pas faire lourd. Hein. Sans
Non,
surprise,
non, non.
City va gagner la Cup.
Il joue contre United en finale, hein, mon garçon.
Il joue contre Saint-Derby, là. Ouais.
C'est un derby, justement. C'est United qui a gagné au tir au but, 7 tirs au but à
Non,
6.
mais ça va.
Je désolé, je te coupe, j'en profite pour te couper, mais je pense qu'effectivement, en championnat, là, maintenant, ils vont dérouler. Ils ont deux jokers et ils ont l'affrontement direct avec Arsenal. Donc, je pense que là, maintenant, Arsenal va se faire doubler. Ils ont laissé passer leur chance. Ils sont en train de faire une Benfica, dans une moindre mesure. Après, j'aurais presque tendance à dire que la compétition peut-être la plus compliquée pour eux, ça va être la Cup. Parce que justement, c'est un derby qu'ils ont eu du mal cette année contre United dans tous les affrontements directs. que Ten Hag arrive bien à prendre l'équipe. Donc c'est sans doute, voilà, c'est un contexte particulier, l'antagonisme entre les deux clubs, le derby, c'est peut-être le plus compliqué.
Ouais, je sais pas.
Là où je te rejoins, c'est que effectivement, alors je ne parlerai pas d'adaptabilité tactique de Guardiola. Je pense que Guardiola, justement, en prenant Haaland, et c'est son choix, il s'est offert une multitude de palettes de jeu. C'est-à-dire qu'avant, il avait pas l'attaquant en pivot, il n'avait pas l'attaquant qui prenait la profondeur, il avait des faux neufs, on en a déjà parlé dans cette émission, tout ça. Donc, ben finalement, on l'a vu, hein, l'exemple criant, c'était contre le Bayern. Il marque deux buts sur du jeu direct. Où il y a notamment
Ah, clairement.
le premier, ils sont à deux doigts, les deux doigts d'Ederson, qui détourne le ballon, prend un but. Sur un long dégagement de Joe Stone, il y a un travail en pivot de Haaland incroyable. Ils sont à deux contre deux sur le dégagement. Remise de Haaland, passe de De Bruyne dans la profondeur et Haaland va marquer. Donc, ils arrivent maintenant à marquer en deux passes, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, il leur fallait 20, 25 passes pour marquer. Donc, ils ont un plan B quand le plan A ne marche pas. Ils ont un plan C quand le plan A et le plan B ne marchent pas. Et on est arrivé dans une espèce de version 3.0 du Manchester City de Guardiola ou du guardiolisme, pour reprendre un néologisme que j'avais employé dans une de nos premières émissions. Et je les trouve injouables. C'est-à-dire que même en Coupe d'Europe, honnêtement, s'il n'y a pas les blessures, les suspensions, voilà, je vois pas comment ils peuvent être battus parce qu'ils sont complets dans toutes les ligues. Ils ont aujourd'hui le meilleur avant-centre du monde. Ils ont le meilleur meneur de jeu du monde. Ils ont le meilleur arrière central du monde avec Koopmeiners et ils ont un des meilleurs gardiens du monde avec Ederson. Donc je vois pas où sont les trous. Et le seul truc qui pourrait les faire chuter sur le triplé pour moi, finalement, ça serait presque la Cup parce que c'est United, parce que c'est particulier et parce que ça peut obéir à du grand n'importe quoi.
Ouais, la cup, enfin, moi je vois pas trop la difficulté pour City de battre United. Hein. Sincèrement, vu le jeu qu'ils proposent aujourd'hui et vu le jeu que propose United justement ces 5 derniers matchs, honnêtement, ils n'ont pas de souci à se faire. Hein. Par contre, pour moi, pour le match le plus difficile qu'ils vont avoir aujourd'hui, pour moi, c'est le Real de Madrid. S'ils passent le Real de Madrid, clairement, je suis d'accord avec toi. Quelle que soit l'équipe italienne en face qui va arriver, ils vont les dominer.
Marc?
Je suis d'accord avec toi, Daniel. Je pense que le challenge le plus difficile, ça va être encore une fois le Real Madrid. Cette équipe du Real est toujours là, même si tu les enfonces sous l'eau. J'ai revu les deux matchs l'an dernier, le match aller-retour. Tellement je suis impatient de voir cette année. Je me suis retapé ces jours-ci les deux matchs et c'est incroyable. City, à chaque fois, avait la mainmise dessus. Il menait 2-0 parfois. Et puis ce club en face qui se relève toujours et toujours et encore et toujours. Alors pour moi, le gros défi, ça va être là parce qu'en championnat, je pense que Arsenal est en train de se déliter petit à petit. Mentalement, je pense qu'ils n'ont pas l'expérience vraiment de ce genre de lutte acharnée. Je pense que City, de toute façon, ils ont leur destin entre leurs mains. La finale contre Manchester United, pour moi, il n'y aura aucun problème. Hein. Et
Ah,
je le répète.
je vous trouve hyper confiant parce qu'ils ont pas du tout, ils ont remporté, ils ont, pardon, ils n'ont remporté aucun match contre United cette année.
C'est comme ça que je le sens. Moi, pour moi, l'os, vraiment, ça va être le Real Madrid. D'ailleurs, je lance, sûrement que Guardiola nous regarde, hein. Je lance vraiment un appel solennel pour que enfin ils nous sortent le Real Madrid. Parce que, genre. J'ai envie de changement, j'ai envie que Guardiola gagne cette année. J'aime cette équipe, j'aime la façon dont elle joue. Je pense qu'elle a tout pour y arriver. Comme tu le dis, ils ont une palette incroyable. L'an dernier, tu sais, des fois, ça ne fonctionnait pas. Gabriel Jesus en attaque, tout ça, des fois. Gamberger devant, c'était pas. Là, à tous les postes, c'est assez exceptionnel. Moi, je pense que s'il passe le Real, c'est fini. Je ne vois pas une des deux équipes italiennes derrière. Les gêner, donc je crois vraiment qu'ils vont faire le triplé cette année, quoi. Ouais.
Et Mehdi, n'oublie pas une chose aussi, c'est que le match, la finale de la Cup, il me semble que c'est au mois de juin. Donc, c'est-à-dire que toute la partie du championnat, ça va être réglé déjà.
Et la Ligue des Champions.
Donc, si, et, comment?
Et la Ligue des Champions.
Voilà, donc ça veut dire que si City arrive en mode locomotive, c'est-à-dire en ayant gagné le championnat et en ayant gagné la Ligue des Champions, bah, laisse tomber, ils vont les manger.
Donc, en gros, pour conclure ce débat, triplé, pas triplé, très rapidement, Marc, triplé.
Triplé, ouais.
Dani?
Ouais, triplé, parce que ça se passe en juin, la finale de la Cup, donc moi je pense que ouais, triplé.
Ok. Bon, moi, même si j'aimais beaucoup le dessin animé qui passait sur la 3, je vais dire pas triplé. Juste par respect de contradiction. Et parce que je suis un sale gosse. Bon, sans transition aucune, on va passer au championnat d'Allemagne. Ça nous arrive pas tout le temps de parler du championnat d'Allemagne. Mais ce week-end, gros tremblement de terre, puisque le Bayern de Munich s'est incliné une nouvelle fois et a relaissé la place de leader au Borussia Dortmund à quelques encablures de la fin. Parce que je vous rappelle que c'est un championnat à 18 clubs en Allemagne, il y a 34 journées, et donc il doit rester 5-6 journées à tout casser. Donc voilà, finalement, le Bayern, déjà éliminé de la Coupe d'Allemagne à domicile par Fribourg, sorti de la Champions League, donc comme on l'a vu cette semaine par Manchester City, en marquant un but sur un penalty très discutable. Donc ce Bayern de Munich, pour la première fois depuis très très longtemps, va-t-il réaliser une saison blanche? Ça fait, je crois, 10 fois d'affilée qu'ils étaient champions d'Allemagne. Donc pour l'instant, c'est une grosse surprise. Marc, je connais ta passion pour Thomas Tuchel.
D'abord, bravo pour le changement d'entraîneur. Franchement, ça n'a pas eu l'effet escompté. On se rend compte vraiment que le changement d'entraîneur, ce n'était pas ça vraiment la problématique. Je pense que le mal est très profond. Ben, je pense que c'est un problème qui est vraiment non seulement sur le terrain, ça manque de leader, mais en plus au niveau de la gouvernance, hein, Oliver Kahn et puis le directeur sportif qui a un nom imprononçable, Salihamidzic, je
Hassan
crois.
Salihamidzic, ouais, ancien joueur du Bayern et de la Juve.
Ouais, ben ils sont fortement contestés, ça manque, qu'ils se plaignent qu'il n'y ait pas de résultats et tout ça, mais qu'ils n'apportent pas vraiment de réponse. On est loin du duo incarné autrefois par Rummenigge et puis par
Honnête.
voilà, qui eux, quand ils tapaient du poing sur la table, ça bougeait et puis pendant 6 mois, tout le monde filait droit. Là, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. Je pense que vraiment, c'est inquiétant. Ça prendrait des joueurs de caractère un peu comme Thorsten Frink à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000. Mais en tout cas, ça. La chance qu'a le Bayern, c'est que Dortmund est une bonne équipe, mais jusqu'à présent, elle en a profité ce week-end, du faux pas finalement du Bayern. Mais d'autres fois, elle n'a pas su en profiter et je ne suis pas sûr qu'ils sachent en profiter jusqu'au bout. En plus, je crois que le week-end prochain, le Bayern joue contre le dernier. Donc le Hertha Berlin, je pense, c'est ça, hein, c'est le prochain match. Donc là, je pense qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit. Et si je regarde, eu égard au calendrier, si je regarde le calendrier, franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus positif, en tout cas, pour le Bayern que pour Dortmund. Donc je pense que ça va passer, mais très très juste, mais je pense que ça va, ils vont quand même gagner le championnat.
Alors moi, je te rejoins. Hein. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Onnes, surtout, n'a pas été remplacé parce que Salihamidzic, il avait fait quelques bons recrutements. Ça fait un petit moment qu'il est là. Salihamidzic, il a commencé son mandat sous la présidence Onnes. Mais je vois effectivement, je lis là ces derniers jours qu'Oliver Kahn est déjà très menacé, qui visiblement, il quitterait la présidence du conseil de surveillance à la fin de l'année. Je pense que effectivement il y a plus de leadership et qu'on voit que dans tous ces gros clubs, quand le leadership fait défaut, comme dans n'importe quelle entreprise finalement, bah, ça part en quenouille. Hein. Jean-Michel Aulas a été un très très grand président pendant longtemps et là il ressent qu'il est plus près de sucrer les fraises qu'autre chose et
Ah
donc
oui, grave.
le club part en sucette. Voilà, c'est un peu pareil au Bayern, la transition s'est pas faite. Et ça se ressent dans la politique sportive. Le recrutement a été très très bizarre. Voilà. On a laissé partir des gens au milieu de terrain. On a laissé partir évidemment Lewandowski. On l'a remplacé par Mané. Mané, c'est pas un vrai avant-centre. C'est compliqué parce que au Bayern, il y a cette culture de l'avant-centre. Même quand Guardiola était là, il y avait cette culture de l'avant-centre. C'est quand même une caractéristique du jeu allemand qui est très présent. C'est un club où ils ont vu passer Müller, où ils ont vu passer Rummenigge, où ils ont vu Gerd Müller, hein, bien sûr, où ils ont vu passer Rummenigge, où ils ont vu passer Klinsmann, où ils ont même vu passer Jean-Pierre Papin. Donc il y a cette culture de Giovanni Elbert, il y a cette culture du buteur, du renard des surfaces. Ils n'ont pas là. Et on sent que ça leur fait défaut parce qu'il y a, même quand Nagelsmann était là, il y avait une domination sur les matchs, il y avait du beau jeu, il y avait des joueurs comme Coman ou Sané qui faisaient des différences sur les côtés, mais il n'y avait pas de vrai avant-centre pour reprendre les offrandes. Quand on se rend compte qu'un club comme le Bayern, l'avant-centre, enfin, le meilleur buteur aujourd'hui, c'est Choupo-Moting, ça en dit long sur, quelque part, sur la faillite
Oui,
sportive
exactement.
du club et du recrutement. Après, voilà, je te rejoins. Je trouve que le changement d'entraîneur, quelque part, compliqué. Alors, il y avait des problèmes de vestiaire. C'est le vestiaire qui avait demandé la tête de Nagelsmann, en particulier Mané. On voit qu'avec l'arrivée de Tuchel, ben Mané, il s'est pas calmé. On a vu la dernière fois où il a mis une baffe à Leroy Sané sur le terrain ou dans les vestiaires. Ça s'est très, très mal passé après le match contre City. Et ils ont du mal à retrouver l'unité dans le vestiaire. Mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire du Bayern. Je sais pas si vous vous souvenez, de l'époque de Matthäus et de Lizarazu, quand ils ont venu aux mains aux entraînements, ils ont toujours bien aimé se mettre des baffes
Oui,
et des danses et gagner le week-end. Là, chez
mais
Nagelsmann, il y avait moins de d'allant
c'était
offensif.
différent. Il y avait du caractère. Et là, ce qui est très inquiétant, c'est que sur la première mi-temps contre Mayence, ils mènent, je crois que c'était 1-0 à la mi-temps. Ils doivent gagner 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et ils s'écroulent psychologiquement et physiquement en deuxième mi-temps. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas de leader. Upamecano, qui est exceptionnel la première partie de l'année, s'écroule complètement. Il faut dire que psychologiquement, quand ton entraîneur t'enfonce en plus à la fin du match contre City, je pense que c'était pas très psychologiquement, c'était pas très intelligent de la part de Tuchel. T'as Leroy Sané qui déçoit d'année en année. Je pense que c'est pas un joueur de très haut niveau. Je pense que c'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur de très haut niveau qui a la mentalité professionnelle à s'entraîner puis à être sérieux, etc. Je pense pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Et quand tu mises, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, quand ils ont recruté Choupo-Moting, c'est déjà très inquiétant. Ça m'a rappelé un petit peu la Juve, il y a quelques années, qui recrutait toujours très très bien, très très bien, très très bien, et qui s'est mis à recruter Ronaldo, qui était une énorme connerie, qui les a plombés pendant 2 ou 3 ans après derrière, alors qu'ils ne faisaient jamais d'erreur ou très peu d'erreurs en termes de recrutement. Là, le Bayern, ça fait 2 ou 3 années, on est très très loin du Bayern de Guardiola. Et puis.
Hans-Dieter Flick qui a gagné la Ligue des Champions
Et exactement. Donc l'écart.
après une année exceptionnelle. Mais là où je te rejoins, de toute façon, Choupo-Moting, ils l'ont pas recruté pour être titulaire, ils l'ont recruté pour être doublure de Lewandowski.
Ouais.
Et quand
Ouais.
Lewandowski part, il recrute Sadio Mané qui est pas avant-centre parce qu'il a toujours joué sur un côté à Liverpool. Donc tu comprends pas trop. Et pour en revenir à Leroy Sané, pareil, quand il recrute Leroy Sané, il recrute Sané avec déjà un joueur de côté qui s'appelle Serge Gnabry. Et qui vient de faire une saison fantastique en Ligue des Champions quand il gagne la Ligue des Champions. Donc,
Oui,
ils mettent en difficulté des joueurs qui sont au top en leur mettant des joueurs dans les pattes. Alors, ça a du bon la concurrence, mais c'est bien aussi qu'elle soit plus ou moins hiérarchisée, de ne pas couper l'élan de joueurs qui se révèlent. Et moi, là où je suis déçu sur Tourelle, c'est qu'il y avait un seul truc positif dans cette équipe, c'était l'assise défensive et qu'il l'a complètement cassé. Il a complètement bousillé l'assise défensive qu'avait créé Nagelsmann avec la défense à 3. Il y avait une défense à 3 qui marchait très bien entre De Ligt, Upamecano et Pavard. Il a décidé de revenir à 4 derrière. Il a fragilisé Upamecano qui est meilleur à 3 derrière. Hein. Même en équipe de France, il fait des bons matchs en équipe de France. On se souvient qu'au début, il avait fait des bons matchs de merde à 4 derrière. Et Pavard, qui n'aime pas jouer arrière droit et qui était excellent en axe droit et qui a de nouveau du mal arrière droit. Donc moi, je ne les vois pas revenir. Parce que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Dortmund, ils ont raté plusieurs fois le coche en début de saison. Et là, ils leur font un cadeau, finalement, tombé du ciel. Et donc, je ne les vois pas revenir, même ne serait-ce que mentalement. Parce que, effectivement, il faut que Dortmund trébuche. Mais il faut aussi que le Bayern ga gagne tout derrière. Est-ce qu'ils vont être capables de gagner tout derrière? Alors, peut-être contre l'Hertha Berlin,
Ça
mais
c'est
les autres
fait.
matchs, je ne sais pas. Dani?
Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, tant Marc que toi, sur sur le fait que le mal du Bayern est profond. Et moi, sincèrement, j'avais un peu. Je pensais pas, ça, honnêtement, que le mal était aussi profond que ça, au niveau du vestiaire. D'ailleurs, je les voyais même passer contre City. Je pensais qu'il allait avoir un électrochoc et ça n'a pas eu lieu, clairement. Donc, c'était un coup dans l'eau, et je pense que Mehdi, tu as raison, l'effet Tuchel a pas eu vraiment l'effet escompté. Et donc, du coup, comme disait Marc, je suis complètement d'accord, le mal, il est vraiment très profond, il est dans le vestiaire. Dans le vestiaire et dans le leadership. Oliver Kahn est trop présent dans ce club, on l'entend trop. Voilà, c'est quelqu'un qui devrait être beaucoup plus discret. Je crois qu'il confond un peu les rôles. Alors, c'est peut-être difficile pour lui parce qu'il a été sur le terrain et il voit son club voilà, dans cet état-là. Ça doit être compliqué à gérer, mais ça reste un dirigeant et je pense que les sorties qu'il a eues ne sont pas en faveur de son club. Après, tu as Sadio Mané, tu l'as dit, il vit un enfer en ce moment. Il vit un enfer. Il y a des infos qui circulent dans les réseaux. Il vit vraiment un enfer dans le vestiaire. Tu as Lucas Hernandez, pareil, qui maintenant est en proie à des polémiques avec son ex-femme, enfin avec de ce qui s'était passé à l'Atlético. Enfin bref, dans le vestiaire du Bayern en ce moment, c'est le bordel. Et donc, du coup, il y a une fragilité émotionnelle au sein de ce groupe qui fait que ça se reflète sur le plan sportif. Et moi, je regardais le calendrier du Bayern au niveau du championnat. Ils vont quand même jouer deux matchs contre des candidats qui luttent pour se maintenir, le Hertha et Schalke.
Chaque 04.
Donc, et Schalke 04. Donc, moi, je serais plutôt incliné à dire que cette année, le Bayern ne va pas gagner le championnat, mais par contre, va vraiment procéder à une restructuration qui est malheureusement nécessaire. Et ils vont se préparer pour la saison prochaine, quoi.
Il cherche déjà un attaquant, évidemment.
Bah, oui, tu m'étonnes.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme attaquant sur le marché? Ça va être compliqué. Et moi, pour revenir sur le calendrier. Moi, je crois que
Vas-y, vas-y.
le match, le vraiment le gros match pour eux, il reste que 5 journées, championnat d'Allemagne, avant-dernière journée, ils reçoivent Leipzig. Ils reçoivent
En plus, ouais,
Leipzig.
qui est
Donc, ça
cinquième.
va être, bah, ça
Leipzig qui est cinquième, ouais.
va être, et qui va jouer sa qualif en Ligue des Champions. Donc, ça va être coton. Ils n'ont pas un championnat
Alors que
comme ça.
de l'autre côté, Dortmund, il joue que des milieux de tableau.
Non, mais je suis d'accord. Donc, saison blanche, pas saison blanche. Moi, je dis saison blanche.
Bon, saison blanche.
Moi, je pense que ils vont quand même avoir le titre.
OK. On note tout ça. On note tout ça et on va passer sans plus tarder au pronom. On va commencer par une affiche au sommet en Serie A entre l'AS Rome et le Milan AC. Vous avez suivi dans l'actualité cette semaine que la Juve a récupéré ses 15 points de pénalité. Et donc, est désormais troisième de Serie A, ce qui a chamboulé le classement. La Roma, qui était troisième, glisse à la quatrième place. Et le Milan AC, qui était quatrième, n'est plus pour le moment qualifié en Ligue des Champions. Et donc, on a un match entre la Roma et le Milan AC, entre le troisième, non, pardon, entre le quatrième et le cinquième, qui sont exactement à égalité de points. Donc, un match à 6 points. Donc, AS Roma, Milan AC, Dani, toi, le plus fervent supporter de José Mourinho.
Ah oui, c'est vrai. Non, José Mourinho, il fait une super saison hein, cette année. Hein. Franchement, quand il a pris cette équipe de Rome, qui aurait dit que quelques années après, il serait là, quoi. Hein. Et non, moi, je reste persuadé que la Roma va jouer sa vie là, sur ce match-là, en championnat. Parce que comme tu l'as dit, comme la Juve est remontée, du coup, bah, eux, se maintenir en Ligue des Champions, là, ils sont en mode survie. Hein. Donc, ils jouent à la maison, ils jouent à domicile. Je ne les vois pas perdre et je ne les vois pas faire match nul non plus. Donc, je pense une victoire de Rome. Allez, 1-0.
Marc?
Compliqué, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un match à 6 points. C'est les quatre premiers, hein, la Champions League. Donc, du
Ouais,
coup,
en Italie, ouais.
sachant qu'il y a aussi l'Inter qui est sixième, qui n'est pas très loin, qui est à 2 points.
C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment un match au couteau. Ils ont à peu près les mêmes dynamiques. Trois dernières victoires, je pense les trois derniers matchs, la Roma gagne. Le Milan est sur une bonne dynamique. Et puis il y a la Coupe d'Europe aussi, dans les deux cas. Très compliqué. Moi, je mettrais match nul. Je verrai un partout sur ce match-là. Très difficile pour moi de départager. Ouais.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense que, assez bizarrement, le match nul, c'est un mauvais résultat pour les deux équipes.
C'est
Parce
un
que
très mauvais
si
résultat.
Inter l'emporte derrière,
Ouais.
on se retrouve avec 3 à égalité, et donc je pense qu'aucune des deux équipes, même si on est dans le championnat italien, ne jouera le match nul. Donc on risque
Non.
d'avoir un match assez débridé, parce que finalement, match nul ou défaite, ça peut vouloir dire la même chose pour eux. Donc je pense qu'on aura un rythme assez débridé. Moi, je vois quand même le Milan AC l'emporter parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, dans ce genre de match, c'est le gardien et l'attaquant qui font la différence. Ça se joue dans les deux surfaces. Et dans les deux surfaces, je pense que le Milan AC est supérieur. Aujourd'hui, Mike Maignan, c'est supérieur à Rui Patricio. Même si Rui Patricio a été un très bon gardien, malheureusement pour l'équipe de France en finale de l'Euro 2016. Et je pense que les attaquants du Milan sont meilleurs que les attaquants de la Roma. Donc, je donnerai une victoire 2-0 du Milan AC. Voilà. Et je vous propose d'enchaîner avec un derby au Portugal, un derby entre le FC Porto et le Boavista. Un derby qui vaut cher aussi, puisque le FC Porto s'est engagé dans une course-poursuite contre le Benfica. Ils sont revenus à 4 points depuis 2 journées. Benfica a eu du mal à l'emporter contre Estoril ce week-end, un petit 1-0. Mais le FC Porto a aussi eu beaucoup de difficultés à l'emporter à l'extérieur. Donc, bah, Marc, tu connais ta passion pour le championnat portugais?
Merci de l'exposer au grand jour.
Oui.
Oui, ben en fait, il y a quelques semaines encore, on disait que Benfica allait être champion. Et là, Porto a clairement l'occasion de s'approcher vraiment, vraiment encore plus de Benfica, même d'être champion à la fin de l'année. Le championnat, quand même, portugais est assez déséquilibré. Hein, quand on joue le 11e et qu'on est deuxième, en général, ça se passe bien.
Merci.
Donc, je dirais que franchement, une victoire large de Porto, enfin large, un bon 2-0, je pense que, ouais, je pense que Porto va l'emporter. Ils ne vont pas passer à côté de l'occasion de mettre la pression sur le Benfica.
Dani.
Ouais, bah, je pense que oui, Porto va l'emporter. C'était contre Paços de Ferreira
Ah, bien
qu'ils
sûr.
ont eu du mal ce week-end. Et effectivement, ils ont eu beaucoup de mal. Contre Boavista, c'est un derby, tu l'as dit, à Porto. Historiquement, Porto ne perd pas ses derbies. Soit ils font match nul, soit ils gagnent. Donc là, vu qu'ils sont sur une lutte acharnée pour le titre, ils vont, je pense, l'emporter. Je vais dire 3-0.
Oui, moi aussi, je pense qu'ils vont l'emporter. Le championnat portugais est d'autant plus relancé que mathématiquement, aujourd'hui, même Braga peut être champion, en sachant que Braga va se déplacer dans 15 jours au Stadio da Luz. Et donc, s'ils se
Gros
déplacent
match.
voilà, dans 2 matchs, s'ils a, par bonheur pour eux, ils arrivaient à gagner dans le stade du Benfica, on aurait un regroupement où les 3 premières équipes se tiendraient en 3 points. Donc, en fait, Porto, non seulement il faut qu'ils gagnent pour essayer de rattraper Benfica, mais il faut qu'ils gagnent aussi pour pas que Braga leur passe devant. Parce que Braga n'est qu'à 2 points finalement du FC Porto.
Deux
Donc
points,
finalement, comme on dit en
ouais.
cyclisme, ils sont en chasse-patate. C'est pas toujours la meilleure position. Donc il faut vraiment qu'ils continuent à appuyer sur l'accélérateur. Donc ouais, moi je vois Porto l'emporter 3-1. Ils jouent à domicile. Effectivement, ils jouent le 11e du championnat portugais. Une des équipes, je crois, détenue par Gérard Lopez. C'est pas toujours un gage de qualité. On l'a vu à Bordeaux ces dernières années. Donc, je vois Porto l'emporter, mais 3-1, parce que je me dis que bon, dans un derby, Boavista, ils vont quand même essayer de coller un pion. Et enfin, dernier match, le pronom improbable, pas si improbable que ça, hein, on fait une oxymore dans cette émission. On a commencé par Toulouse, on finit par Toulouse. On va parler rugby, une fois n'est pas coutume. Ouais, j'ai placé oxymore, ouais, je suis désolé. J'avais aucun pari sur ça. Mais donc on va parler rugby, puisque l'autre événement du week-end, c'est les demi-finales de Champions Cup. Je sais que ça passionne Dani. Il n'y a pas le Racing, hein, on est désolé. C'est même pas s'ils seront dans les
Ah
six
ouais,
pour les phases finales du championnat. Ça va être cochon.
Difficilement,
Mais
ça
là,
va être
donc,
dur.
on a sans doute, je crois, l'affiche de l'année en termes de matchs de club ou de province, selon les pays, puisque le Leinster, avec ses 10 internationaux irlandais, va rencontrer le Stade Toulousain avec ses 10 internationaux français. Donc, on a un mini Irlande-France. Ça se joue à l'Aviva Stadium. C'est la revanche de nombreux demi-finales, puisqu'ils se sont rencontrés souvent en demi-finale ou en finale. Et surtout, on a les deux équipes les plus titrées, 5 titres de Champions Cup pour Toulouse et 4 titres pour le Leinster, qui arrive un peu le vent dans le dos après le Grand Chelem des Irlandais. Donc, Dany, je te laisse la parole.
Non, bah, tu l'as dit, hein, pour faire vite, c'est vrai que bah, ça, je crois qu'sur les deux dernières rencontres, ils perdent Toulouse. Et donc, et l'an dernier, ça a été dur. Bah, ils étaient au pack de la
L'an dernier, ils ont
finale.
bien ramassé, ouais.
Ouais, ça a été sèchement, ils ont été sèchement éliminés. On ne s'y attendait pas d'ailleurs. Et justement, à mon avis, je pense que ils l'ont en travers de la gorge, hein, ce match de l'an dernier. Et même si Leinster est grand favori quand même cette année, ils ont vraiment la grosse équipe. Je pense que cette année, Toulouse est quand même très solide. Je me demande si ce n'est pas la meilleure équipe de Toulouse qu'on ait vue jusqu'à présent. C'est quand même assez exceptionnel. L'état de forme en plus des joueurs qui composent le 15 de France en ce moment, qui anime cette équipe. Moi, honnêtement, cette année, je les vois passer ce match. Je les vois même remporter la Coupe.
Alors, moi, je dirais qu'effectivement, le Leinster, ils sont dans la position dans laquelle était le Stade Toulousain l'an dernier. C'est-à-dire que le Stade Toulousain, ils étaient arrivés avec une certaine usure mentale, enfin, en tout cas les joueurs du Stade, après avoir fait le Grand Chelem avec l'équipe de France. Là, cette année, c'est les Irlandais qui sont dans cette position-là. Beaucoup d'absents au Leinster. Ils commencent à payer physiquement, effectivement, ce Grand Chelem et les nombreux matchs de haute compétition, puisque Sexton ne sera pas là. Puisque l'arrière irlandais, la chevelu, je crois, Douglo ou quelque chose comme ça, sera pas là non plus. Celui qui a été désigné, le troisième ligne qui a été désigné meilleur joueur du monde l'an dernier, il est très, très, très incertain. Donc, il y a un état de forme, effectivement, qui est meilleur au Stade Toulousain, a priori, et qui est un peu mieux géré, puisqu'on a vu que ils ont fait tourner sur les deux derniers matchs, Toulouse. Le Leinster aussi, hein, mais Toulouse a fait tourner sur les deux derniers matchs. Notamment le dernier à Paris, où ils ont envoyé l'équipe espoir, quoi. On va pas se mentir.
Ça s'est pas bien passé d'ailleurs.
Ouais, bah, ils auraient pu ramasser plus sévère, hein, parce que quand on voit les espoirs contre le troisième du championnat et que tu perds que 19 à 10, c'est quand
C'est
même,
vrai. C'est vrai.
ça
C'est
en
vrai.
dit long sur le réservoir de l'équipe. Donc, ils sont mieux préparés. Physiquement, ils vont être plus frais. Le rugby, ça reste un sport de combat et de vitesse. Donc, physiquement, quand t'es pas au point, l'an dernier, ils n'étaient pas au point physiquement. T'explose. On a vu l'équipe de France, notamment en Irlande, qui avait fait une super première mi-temps pendant le tournoi et qui a explosé la deuxième mi-temps complètement physiquement. Donc, qui ont ramassé la deuxième mi-temps. Là, je pense que Toulouse, ils vont pas exploser physiquement. Surtout qu'ils ont un banc qui est autant de qualité que les joueurs qui sont sur la pelouse. C'est-à-dire, ils vont peut-être sortir, mais à fou, ils vont faire rentrer Flamand, ils vont faire sortir Marchand, ils vont faire rentrer Movaca. Donc, ils auront du carburant tout le match. Et quand ils ont du carburant, je pense qu'ils ont les trois meilleurs joueurs du monde. En tout cas, derrière, ils ont Dupont, Ntamack, Ramos. Je crois qu'on fait pas mieux aujourd'hui derrière. Et même devant, sur certains postes, Baye, Marchand, Meafou, c'est sans doute les meilleurs à leur poste aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils vont l'emporter. Ça va quand même être dur, hein, parce qu'ils vont jouer là-bas. Ils vont l'emporter, pas de beaucoup, de 4 ou 5 points, mais ils devraient l'emporter. Marc?
Ouais, ben vous l'avez dit, bon, c'est vrai qu'une des données à prendre en compte, c'est l'état de forme physique. Pour une fois, parce que je dis bien pour une fois, une équipe française qui joue donc au top 14 va arriver fraîche. Enfin, du moins, aura eu 3 semaines de préparation. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce que le championnat français est très, très, très exigeant. Donc ça, c'est une donnée énorme. L'autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que ça se joue en Irlande. C'est pas simple. On sait l'importance du public dans un sport de combat qui est le rugby, encore plus que dans le foot. Ça risque d'être une donnée et l'arbitrage, hein, même si ce n'est pas l'arbitrage des années 80 où c'était souvent très influencé à nos dépens Mais je pense que ça s'est amélioré. Mais ceci dit, ça reste quand même une donnée importante. Moi, j'ai peur parce que ce sont deux équipes avec un peu les mêmes caractéristiques. Ils envoient du jeu. C'est des équipes très, très joueuses. Et à ce petit jeu, physiquement, les Irlandais, ce sont des monstres. On l'a vu au tournoi Destination. On n'a pas fait le poids. C'est vraiment, ils sont capables de jouer des temps de jeu très, très longs, très, très longs, très, très longs. Et ça va être une des données, peut-être, de savoir casser de temps en temps ces longues phases par des coups de pied, jouer derrière la défense. Ça va être une des données pour moi importantes, ça va être ça. Et puis les avants, s'ils sont capables de faire les mêmes dommages qu'ils ont fait contre les Sud-Africains, non, qu'ils ont éliminés
Ouais,
en quart de finale.
en quart et en huitième.
Les Sharks, là, je crois. Où, je pense qu'ils sont capables de renouveler l'exploit qu'ils ont réalisé au niveau des avants, c'est-à-dire leur casser la gueule en termes de rugby. Et puis envoyer du jeu derrière, je pense qu'ils ont une chance. J'ai peur juste que ça se joue en Irlande. Voilà. Si cette donnée n'y était pas là, terrain neutre, je dirais éventuellement Toulouse, mais rien que cette petite donnée, j'ai l'impression que ça va être un traquenard et que pour une fois, samedi, Toulouse sera une ville de foot pour moi et non pas une ville de rugby. Donc malheureusement, je mise plutôt Leinster là-dessus.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On va pas, je sais pas, je crois qu'on est un peu pris par le temps. On peut pas relancer le débat éternellement, mais l'équipe qui va avoir le ballon, la position du ballon. Alors on a parlé de la position en foot, mais là en rugby d'autant plus important. L'équipe qui va porter le ballon va exploser l'autre, parce que tu peux pas tenir contre Toulouse si t'as pas le ballon, et tu peux pas tenir contre le Leinster si t'as pas le ballon. Tu peux pas passer l'après-midi à défendre contre ces équipes-là. À un moment donné, elles plantent, et à un moment donné, elles te font exploser. Donc ça va jouer devant, effectivement. L'équipe qui va récupérer la possession du ballon, parce qu'ils seront en tête sur les phases de combat, les touches et les mêlées et les rucks, à mon avis, gagnera le match. Finalement, on parle souvent des internationaux qui jouent à Toulouse. La plupart des internationaux qui jouent à Toulouse, c'est des avants. Il y a plus de joueurs du 8 de devant qui sont internationaux que des joueurs derrière. Les joueurs derrière, c'est juste les trois qu'on a cités, Ntamack, Dupont et Ramos. Donc finalement, on parle souvent jeu demain, jeu de Toulousain, mais c'est souvent le 8 de devant qui fait les victoires au Stade Toulousain, comme dans n'importe quelle équipe de rugby. Donc oui, moi je suis assez confiant, parce que par rapport à ce qu'ils ont démontré devant contre les Sharks, c'est quand même un super test, hein. Sur le jeu d'avant, il y a pas mieux que les Sud-Africains pour t'étalonner. Donc après, si l'arbitrage est à la hauteur, effectivement, ils devraient l'emporter. Et je pense que le 29 avril sera une date historique pour la ville de Toulouse. Ok, bon, bah écoutez, j'espère vous revoir mardi prochain, parce que si ça se passe bien, je pense que je vais avoir une très très grosse gueule de bois. Surtout que c'est toujours des traquenards avec mon camarade Giancarlo, donc je ne sais pas dans quel état on sera. Bon, on n'oublie pas, en tout cas, on vous souhaite un bon 25 avril, parce que c'est un jour de fête aujourd'hui au Portugal. C'est férié.
Demain?
Et non, aujourd'hui, hein. On
Aujourd'hui, pardon.
enregistre. Donc,
Ouais.
c'est un jour de fête. C'est un jour de fête aujourd'hui au Portugal.
Oui, aujourd'hui, tout à fait.
Donc, bonne révolution des œillets. On vous souhaite une belle semaine sportive. Belle semaine
Ok, on attend ça avec impatience.
à
Bonne
bientôt.
semaine.